Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
La classe ouvrière bouge encore. Elle n'est pas morte. Dans cette lutte de classe, ceux qui attaquent, qui agressent, c'est le patronat. C'est pas la classe ouvrière. Nous, on n'a pas agressé le patronat.
Emmanuel Macron, président des patrons, on vient de changer chez toi.
La voix off.
Et une polémique.
Il s'agit d'un trucage.
Des manipulations et des intoxications. Française, français, j'ai grandi en province, au fond. Je suis QQ, mais nombre de transformations ont été menées à bien. Alors, nos institutions, il n'y en a plus. Les droits, il n'y en a plus. Nos personnels soignants, il n'y en a plus. Notre école, nos universités, il n'y en a plus. Nos agriculteurs, il n'y en a plus. Les règles de l'indemnisation du chômage, il n'y en a plus, et du travail, il n'y en a plus. Une culture forte qui nous unit, là aussi, il n'y en a plus. Nous voulons en finir avec tous ceux qui tissent le lien de la nation, œuvrent à la fraternité quotidienne. Notre dignité de citoyen va vers sa fin, partout. Mais il faudra aller plus loin, parce que nous sommes un État de droit. Le capitalisme ultralibéral et financier, c'est cela qui doit guider nos choix. J'y veillerai personnellement et chaque jour. Alors faut-il pour autant s'en désespérer? Oui, c'est ainsi.
Vive l'anarchie.
De droite. Et vive la France.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'agit d'un trucage.
Et avec qui?
La voix off.
C'est une polémique.
Que fleurissent sur les réseaux sociaux mille fausses informations et rumeurs, c'est cela la réalité.
Ta réforme Macron, on dit non, 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 non. Tes points à la con, on dit non, 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 non.
Les millionnaires, les milliardaires,
c'est maintenant qu'ils doivent payer.
Et grève générale jusqu'à satisfaction.
Salut les amis, et tout d'abord plein de bonnes choses à vous pour 2020 qui s'annonce tout aussi combative que la fin 2019 qui a vu le début de la révolte contre cette énième casse du système des retraites. Mais on l'a bien compris, les gens ne luttent pas seulement contre le sabotage des retraites, mais plus globalement contre la casse de toute la société et notamment nos conquêtes sociales. Comme l'a d'ailleurs jadis expliqué Denis Kessler, un piscopi du MEDEF, l'objectif du patronat français, c'est de casser tout le programme du CNR, le Conseil National de la Résistance, de tout privatiser et marchandiser. Mais la nouveauté de ce large mouvement social 2019-2020, c'est qu'on y voit désormais des gens qu'on ne voyait pas avant dans les manifs. Alors bien sûr, des gilets jaunes sont venus soutenir les syndicalistes qui défilaient, mais aussi tout un tas de gens d'ordinaire très calmes, mais qui aujourd'hui manifestent, tout simplement parce qu'ils ne parviennent plus à joindre les deux bouts. Les gens n'en peuvent plus. On en parle aujourd'hui avec les copains profs d'histoire géo, Daniel.
Bonjour à tous.
Cédric.
Salut.
Et Philippe.
Bonjour.
Autour de quelques articles du Monde diplomatique de décembre 2019, mais tout d'abord, retour de manif avec André. Salut André.
Bonjour à tous.
Assez de cadeaux pour la France d'en haut. Assez de coups bas pour la France d'en bas.
Il y a un basculement, un changement de mentalité, de rapport de force, d'attitude dans l'opinion des travailleurs. Jusqu'à présent, l'idéologie dominante, l'action des médias, avait réussi à faire tenir tranquille les gens et puis en fin de compte à les faire se résigner. Et là, la résignation n'est plus de mise, on est à l'os. Les gens n'ont plus beaucoup de moyens en fin de compte. Jusqu'à présent, que se passait-il? Les parents, ils soutenaient les jeunes dans le début de leur galère aujourd'hui. Les nouveaux vieux n'ont plus les moyens de soutenir les nouveaux jeunes. C'est-à-dire qu'on a fini par éroder l'ensemble des revenus des travailleurs, que ce soit des revenus de retraite. Bien sûr, il reste tout un secteur, 20-25%, de la population où le patrimoine familial, les réseaux, etc. continuent. Bon, ces gens-là supportent très bien la misère des autres. C'est à ceux qu'on tend le micro. Alors, vous êtes pour ou contre les... Ah bah non, on est contre, hein, ils ont qu'à reprendre le boulot, hein, c'est ça le compte travailleur, etc. Donc il y a toute une partie de la bourgeoisie, il ne faut pas se faire d'illusions, qui ne sera jamais solidaire. Même la petite bourgeoisie, c'est pas nouveau en France. Hein. T'as toute une partie de la petite bourgeoisie, va-t-elle être solidaire avec les travailleurs ou va-t-elle être solidaire avec les gros capitalistes, les riches? Toute une propagande jusqu'à présent a dégouliné pour dire qu'il fallait qu'il y ait des riches, que ça ruisselait sur les autres.
Mais moi, il m'a semblé qu'il y a une partie de la petite bourgeoisie qui elle-même n'y arrive plus, qui ne croit plus dans ce truc-là, par la force des choses.
Ces gens-là ont cru au miracle de la belle société libérale capitaliste, etc., tant qu'ils n'en ont pas été victimes. À partir du moment où ils voient que leurs jeunes ont énormément de mal, et les jeunes, ils n'ont plus d'avenir. Le suicide de ce jeune étudiant à Lyon...
Celui qui s'est immolé.
Quelle est la société où les jeunes se suicident? C'est une condamnation sans appel et sans réserve de cette société. Celle où les jeunes de 25 ans se tuent. Il n'y a plus d'avenir pour eux. Là, tu tires la chasse d'eau. Il faut faire la révolution. Bon, pour revenir à des choses du mouvement d'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, il va durer. C'est par tous les bouts qu'il y a attaque contre les travailleurs. Les salaires, bien sûr, qui restent extrêmement bas. Hein. Les indemnités chômage qui vont être attaquées. Hein. Et même la CGC, très conservatrice CGC, dit non, touchez pas nos caisses. C'est nous qui fournissons les caisses de chômage, y compris pour les travailleurs modestes. Notre caisse de chômage, elle est bénéficiaire. Et vous voulez nous prendre du fric à nous, travailleurs, même si nous sommes cadres, nous sommes amenés, pour fournir aux chômeurs pauvres. Il y a une opposition qui se généralise. Retraite, chômage, salaire, santé publique, les enseignants. J'ai été enseignant toute ma carrière. Je déplorais l'extrême modération, pour ne pas dire la mollesse du mouvement social chez les enseignants. On leur apprend à être modérés, on leur apprend à enseigner la modération à leurs élèves. C'est une catastrophe absolue, quoi. Ils ne se sont pas imaginés qu'ils allaient être prolétarisés. Et ils le sont. Je suis parti, moi, en 2010 de l'Éducation nationale. Je leur ai prophétisé, vous serez prolétarisé, vous travaillerez jusqu'à 68 ans et vous mourrez ensuite après dans la misère. Bon, on y est. Hein. Tu imagines un gars qui, en milieu de carrière, gagne 2200, 2300 par mois, et puis les primes ne comptent pas pour leur traitement. Que peuvent-ils espérer d'un truc comme ça? La misère. 600 euros avec la retraite à point, il ne faut pas raconter d'histoire. Leur retraite va diminuer. Diminuer les prestations de retraite à tout le monde en culotte courte. Quel crédit accorder à un gouvernement et à un président de la République dès le départ? C'était des gens dévoués aux riches. Macron, président des riches. Au début, on n'est pas du tout. Nous sommes centre-droit, centre-gauche. Il y a eu assez de gens assez crétins ou assez malhonnêtes pour se laisser influencer par cette propagande-là, pour les faire élire.
Quand tu disais Macron, t'étais pas droite, Macron. Nous on savait Macron, c'était de la blague.
Quand tu disais
Macron, t'étais pas droite, Macron. Nous on savait Macron, c'était pas vrai.
C'était bidon, ça sonne, ça fait une rime.
Réforme de l'assurance chômage, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon.
Merci beaucoup, Madame la Ministre.
Ce sont des commis du grand patronat. Leurs premières mesures ont été des mesures fiscales pour donner du pognon aux plus riches. Et maintenant, ils ont une réforme à faire qui ne concerne pas les riches, qui concerne les travailleurs. 80% de la population. Leur image de gestionnaire des riches leur colle à la peau. C'est ça aussi qui est leur faiblesse. Quelle confiance accorder à des gens dont on sait qu'ils donnent du fric aux riches et pas aux travailleurs. Et là, ça devient immoral, insupportable, intolérable. Ça, c'est une des dimensions du conflit actuel. Les agents des riches sont en train, à grands coups de talons et de knouts, hein, de piquer du pognon aux gens qui ont travaillé toute leur vie de façon à ce que les riches soient plus riches. Là, ça fait mal au tété, comme dirait l'autre. Hein. C'est pour ça que ça commence à ruer dans les brancards. Les gens disent non. Alors, ça va bien. On a fait assez de cadeaux aux riches. Le pognon, il y en a.
Arrêtez les terreaux riches.
Et il est là le problème. Nous sommes gouvernés par une oligarchie immensément riche, énormément plus riche qu'il y a 20 ans. Allez, après Mitterrand, les riches sont devenus beaucoup plus riches encore. Bien sûr, ça fait partie aussi des choses négatives. C'est la dégradation de l'image d'une certaine gauche. En 1981, la gauche arrive au pouvoir. Socialistes, communistes, radicaux de gauche arrivent au pouvoir. Ils ont un programme épatant. Simplement, en 83, il est enterré. C'est fini, c'est terminé. Il y a le virage libéral du Parti Socialiste, l'Europe capitaliste. Les socialistes, ça y est, sont vendus. Les communistes font ce qu'ils peuvent, mais dans le siège du Parti Socialiste, ils vont disparaître. Qui reste-t-il pour soutenir les intérêts de la classe ouvrière? Bon, bien sûr, il y a la France Insoumise. Ce n'est qu'un parti de réforme sociale extrêmement intéressant et très généreux et que je soutiens. Mais bon, dans l'époque actuelle, il faut qu'il y ait un parti de défense de la classe ouvrière, des travailleurs, qui constituent 60% de la population en France. Il faut qu'il y ait un parti qui soit un parti travailliste, un parti révolutionnaire. Ce que n'est pas la France Insoumise, qui malheureusement bénéficie plus du soutien des véganes et des écologistes que proprement de la classe ouvrière. Il faut qu'il y ait à nouveau quelque chose qui remplace le parti communiste, c'est-à-dire une gauche radicale.
Pas très net, la France Insoumise, sur la question de l'Europe quand même, pour pas effrayer leur électorat.
Mais oui, c'est ça le problème. C'est l'attitude à adopter à l'égard de l'Europe. Peut-on concevoir un parti avec un programme social-économique radical compatible avec le maintien dans les traités européens? Bon, la réponse est simple, c'est non. Totalement incompatible, il suffit de lire les traités. C'est fait pour verrouiller l'Europe. Les traités sont faits pour qu'il soit impossible d'adopter un programme social radical digne de ce nom. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que la totalité des pays de l'Union européenne aujourd'hui sont des pays de régression de la protection sociale, des salaires, du coût du travail, etc. Et c'est fait pour ça. C'est une nasse avec un clapet de non-retour. Il faut dire aux gens, bon, nous avons un programme économique et social, il est incompatible. Nous n'allons pas attendre que l'Europe s'aligne sur notre programme. Nous dénonçons les traités, d'emblée.
Toi qui touches notre retraite, toi qui touches notre santé, toi qui touches notre sécu, aux jeunes, aux vieux, aux actifs et aux chômeurs, touche à ton cul, Macron, et ils sont passés où tes millions?
La classe ouvrière bouge encore, elle n'est pas morte. Dans cette lutte de classe, ceux qui attaquent, ceux qui agressent, c'est le patronat. Hein, c'est pas la classe ouvrière, nous on n'a pas agressé le patronat. On n'a pas demandé de pendre les patrons ou de les bouffer ou des... Non, non.
On y a pensé très fort quand même. Hein.
Pour l'instant, le mouvement est un mouvement réformiste, contrairement à la CFDT, qui est un mouvement de merde. Bon, le reste, la CGT a des revendications réformistes, qui ne sont pas des revendications révolutionnaires. Je rappelle quand même historiquement le congrès de Damiens, fondateur de la CGT, réformisme ou changement de la société. Le mouvement syndical ne doit-il être qu'un mouvement de défense des intérêts économiques de la classe ouvrière ou doit-il porter un projet de changement de société? Alors la CGT avait tranché, si vous voulez, avant la guerre 14, et les deux à la fois. En même temps, la CGT défend les intérêts matériels immédiats de ses travailleurs, par exemple la retraite, et en même temps, la CGT, dans la CGT, il y a aussi l'aspiration à une société sans exploitation des travailleurs. À la CGT, il y avait des socialistes, des communistes, de tout. Bon, à la CFDT aujourd'hui, il n'y a même pas une défense des intérêts à la CFDT des immédiats des travailleurs. Il n'y a rien du tout. Une organisation patronale pour faire tenir les travailleurs tranquilles. Bon. Ça n'a pas été simple pour la CGT et pour les syndicats, mais la CGT en particulier. C'était un syndicat majoritaire. C'est un gros syndicat avec une histoire, des militants extrêmement engagés et très formés, etc. En fait, la CGT a été soumise à la même pression et au même agent de destruction que le Parti communiste à partir de l'année 1981. Une vague social-démocrate de collaboration avec le pouvoir en place. Ils ont eu un moment un secrétaire général, Thibault, qui a appelé à voter oui au référendum européen. La CGT, gérée par les fédérations les plus réformistes, les plus molles, les plus gentilles. Fort heureusement, je pense qu'il y a une reprise en main de la CGT aujourd'hui, dont nous défendons les travailleurs, et particulièrement les travailleurs les plus exposés, les plus vulnérables. Parce qu'aujourd'hui, la lutte, elle est présentée de façon caricaturale par les médias comme étant une lutte des gros syndicats de transport, RATP, SNCF, EDF, de grosses sociétés, etc., qui sont des privilégiés. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce qu'en défendant leur statut, leur retraite, ces gens-là défendent les intérêts des gens qui travaillent chez McDo, chez Decathlon, qui sont des petits salaires de merde et qui vont avoir une retraite de merde.
Assez, assez de ce gouvernement qui rançonne les smicards pour aider les richards.
Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux.
On est beaucoup plus nombreux qu'eux, on est beaucoup plus forts qu'eux. On peut les balayer, en fait, s'il y avait une conscience. Si l'aliénation des gens par le loisir, les consommations de Noël et compagnie, toutes ces conneries-là, si les gens prenaient conscience et connaissaient un peu leur histoire, parce qu'en fait, des gens sont morts, des travailleurs sont morts. À une époque où la grève, c'était 15 jours sans salaire pour des gens qui gagnaient 5 francs par jour. Hein. Et ces gens se sont fait fusiller par Clémenceau en 1907, 1910, etc. Il y a eu des manifestations extraordinaires pour les 3-8. Les 3-8. Hein. C'était effectivement une utopie. Les gens dans la résistance se sont battus pourquoi ? Pas seulement pour foutre les Allemands à la porte. Hein. Les jours heureux. C'est comme ça que s'appelait le programme de UCNR. Les jours heureux. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Une époque formidable où le patronat rasait les murs parce qu'il avait collaboré avec les Allemands. Et à cette époque-là, eh ben, on a fait des choses extraordinaires. On a eu le système de protection sociale le plus développé du monde entier. Du monde entier. C'est ça que le patronat est en train de détricoter, de le foutre en l'air, etc. Et il est surprenant qu'il n'y ait pas plus de monde encore dans la main. On renoue un peu avec les jours heureux, c'est-à-dire les jours de la résistance des travailleurs, des salariés, contre l'exploitation, contre la domination exclusive du patronat. Ça a commencé il y a quelques années déjà, parce que l'entreprise contre la protection sociale, elle a commencé également sous les socialos. Hein. Faut voir la loi El Khomri, hein, la saloperie de truc de désarmer les travailleurs et de livrer les travailleurs à l'exploitation patronale, la précarisation complète, etc. Et surtout le maintien d'un gros volant de chômage comme pression entre les travailleurs. Vous en chiez, vous êtes exploité, mais ça pourrait être pire, vous pourriez être au chômage. Et là les gens, je crois qu'ils n'en peuvent plus de ce discours-là, parce qu'ils vont être au chômage de toute façon, pour des périodes plus ou moins longues, mal rémunérés par un système de chômage qui va être de plus en plus avare. Et en plus, ils vont se retrouver ensuite après avec une retraite à points qui ne tiendra pas compte, évidemment, des périodes d'inactivité. Ça va être une catastrophe.
Nous n'avons pas le choix, les retraites sont menacées. Le ministre, voilà, voudrait les détourner. Entrer dans la danse, grève partout en France. Public, privé, c'est beaucoup trop d'annuités. Nous n'irons plus en classe, les écoles sont fermées, car devant la menace, nous sommes mobilisés. Entrez dans la danse, grève partout en France, public, privé, c'est beaucoup trop d'annuités. La réforme que voilà, ne laisserons pas passer, nous défendrons nos droits jusqu'au retrait complet. Entrez dans la danse, grève partout en France, public, privé, c'est beaucoup trop d'annuités.
Dans le monde diplomatique, la gauche en quête d'un supplément d'âme. Un article d'Evelyne Pieler, de Georges Bernanos à Extinction Rébellion. Alors même que la fin de l'espérance révolutionnaire a été popularisée comme une évidence, le rejet des valeurs néolibérales va croissant, tout comme le désir de retrouver un sens à la vie individuelle et collective. Mais cette aspiration tend à s'appuyer de plus en plus sur une recherche spirituelle, où l'objectif d'une révolution sociale peut s'évaporer au profit d'une révolution intérieure. Ça ricane déjà autour de la table. Alors André, peut-être l'occasion, dans un deuxième temps, après avoir synthétisé et commenté ce papier, de rappeler quand même des choses assez évidentes, hein, puisque l'épiscopie des médias nous rabâche qu'il y a eu la fin de l'histoire, qu'aujourd'hui il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, qu'on appartient tous à la middle class. Or, la gauche et la droite, ça existe toujours, et je dis souvent aux gens, mais la gauche, c'est pas des concepts qui flottent comme ça dans les salons où glosent les gens intelligents. La gauche, ce sont des choses extrêmement concrètes qui ont été des utopies et qui sont devenues, par le combat, des choses devenues matérielles, comme
tout ce que les gouvernements successifs sont en train de détruire, hein, les services publics, la retraite, les CAF, une école digne de ce nom, la sécurité sociale, etc. La gauche, c'est tout ça. Bref, on en parlera après le survol de cet article, André.
Oui, c'est un article intéressant, assez compliqué. Dans un premier temps, Evelyne Pieyer, elle dit voilà, c'est la fin des grandes espérances collectives, des grandes utopies, la fin des grands récits, comme elle dit, entre guillemets. C'est devenu une sorte de cliché dans les médias, évidemment. Donc le principe d'espérance, tout ça est fini. L'espérance de transformation révolutionnaire, de route vers une amélioration de la société, serait disqualifiée, périmée, comme tout projet de transformation du monde. Pourquoi ? Bah, y a eu le goulag, hein. Regardez, il y a eu le goulag. Et puis il y a eu Hitler, il y a eu le totalitarisme. Hein. On mélange tout ça en disant, vous voyez, tous ces systèmes, toutes ces théories, ces grands discours ont abouti à l'horreur. Regardez, la révolution chinoise est réduite aux excès de la révolution culturelle, aux milliers, aux millions de morts de la Chine dans cette période. On ne sait pas s'il n'y avait pas eu de révolution, s'il n'y aurait pas eu des millions de morts aussi, parce que la Chine est le problème de la faim. Pendant quelques décennies, ça a quand même été un problème permanent. Mais ce n'est pas grave, tout ça est mélangé. Et les médias ont réussi à instiller dans l'esprit des gens que c'était dépassé, que c'est un vieux truc, le communisme, même le socialisme, tous les espoirs de transformation par la collectivité, par l'action des gens, en quelque sorte. C'est-à-dire que les gens pourraient avoir une action sur l'économie, la société, tout ça est dépassé. Or, ce que souligne assez vite Evelyne Pieyer, c'est qu'en fait, ce lieu commun, hein, de la fin de l'histoire dont tu viens de parler, etc., est battu en brèche. Et qu'aujourd'hui, l'idéologie dominante commence à prendre des coups, en quelque sorte. C'est-à-dire que les gens se sentent mal, en gros. Hein, se conformer aux valeurs bourgeoises, c'est de plus en plus difficile. Parce qu'évidemment, il ne suffit pas de rejeter la gauche, de rejeter les projets de transformation sociale. L'idéal est quand même de se rallier aux valeurs bourgeoises, conformistes, traditionnelles, hein, à l'adoration de la propriété, de sa transmission par l'héritage, etc. Enfin, toutes ces choses-là, de la famille, et trucs comme ça. Or, il y a dans les classes moyennes, alors parce que c'est ça l'enjeu, c'est important, c'est l'évolution des classes moyennes. En même temps, ces classes moyennes, elles se sont éloignées de la gauche pour beaucoup, enfin d'une bonne partie de ces classes moyennes. Bien sûr, tous les petits bourgeois n'étaient pas à gauche, hein, mais il y en avait assez pour que la gauche existe. Parce que la gauche, ce n'était pas que le prolétariat, la classe ouvrière organisée et ses organisations syndicales et politiques. C'était aussi une partie de ces classes moyennes, petites bourgeoisies, de fonctionnaires, petits paysans, petits artisans, petits patrons, petits commerçants, petits. Hein. Mais parmi ces petits bourgeois, il y avait aussi des gens qui avaient de grandes espérances et qui liaient leurs espérances à la classe ouvrière, tout comme ça. Or, ce qui s'est passé, hein, c'est assez clair, hein, en 30 ans, le mitterrandisme et le socialisme à la peau de lapin du PS a mis en place ce truc-là. C'est-à-dire que ces gens sont devenus plus rien du tout. Ils ont vécu comme des petits bourgeois. Hein, ils ont assuré l'avenir de leurs enfants, ont constitué un patrimoine et se sont éloignés des espérances, de trucs comme ça. Et bon, ils l'ont désavoué. Et puis bon, on leur a dit que tout ce qui était à gauche était totalitaire. Et donc, on dit non, bah non, je suis pas totalitaire. Hein, moi, je suis sous-chef de rayon au bon marché. Et donc, je suis pas un totalitaire. Et donc, si vous voulez, ils se sont éloignés un peu de la gauche. Hein, sauf qu'aujourd'hui, ils veulent pas dire qu'ils sont à droite, quoi. Ils s'aperçoivent bien qu'il y a un triomphe du libéralisme extrême, etc., de la grande bourgeoisie, un enrichissement, un accroissement des inégalités sociales de façon exponentielle, enfin, qui n'a jamais été vu. Hein, et l'accroissement et l'accumulation de fortunes tout simplement insensées, quoi. Et donc ces gens, eh ben, ils sont mal. Alors ils se retournent vers d'autres solutions, en quête de supplément d'âme, comme dit le titre de l'article. Alors c'est assez divers. Ça va vers certaines littératures, comme Bernanos. C'est un homme issu de la droite et même de l'extrême droite, hein, catholique, etc. Et cependant, qui a interrogé critiqué le mal, la société bourgeoise, etc. Il a quand même pris des positions extrêmement courageuses et sincères et très généreuses. Sa réédition d'un journal de curé de campagne a été préfacée par François Bégodeau.
Qui est sorti il n'y a pas longtemps, l'histoire de ta bêtise.
Tout à fait remarquable. Et dans ce bouquin, alors évidemment, il fait mal, hein. Il s'en prend à la mentalité de gens qui d'ailleurs parfois ne réfléchissent pas, mais qui sont des bourgeois qui s'ignorent. Et donc on sent qu'il y a un gros malaise. Alors ce n'est pas nouveau cette attitude du genre de dire le retour à l'intériorisation, à la spiritualité, c'est-à-dire l'abandon en quelque sorte.
Vaincre le yoga par le stress.
Je me souviens lorsque j'étais un étudiant très politisé et je tombe sur une petite affichette invitant à faire du bouddhisme zen où on voyait donc une espèce de Bouddha extrêmement calme, hein, très recueilli, etc. Et c'était marqué « Au lieu de transformer le monde, transformez-vous vous-même ». Quittez le combat, en quelque sorte, hein, et recueillez-vous dans vous-même.
C'est une erreur fondamentale d'interprétation, parce que dans les cultures asiatiques, et notamment confucéennes, il y a l'idée d'un changement de soi comme étant la base du changement global. Il faut mettre de l'ordre en soi avant de mettre l'ordre dans le monde. Et il y a l'idée que les deux choses sont mises en parallèle et que l'un est un moyen pour changer le monde et pas à la place. Et donc ça, c'est une interprétation extrêmement faussée et une falsification très dangereuse.
C'est vrai, l'idéologie ancienne, traditionnelle de la Chine, le confucianisme, il faut qu'on soit en paix avec soi-même de façon à ce qu'il y ait une harmonie du monde, de la société, etc., etc. Mais enfin, moi, j'ai quand même interprété assez brutalement ça comme un ordre de démobilisation. Donc, j'ai mis l'affiche dans mes chiottes. Alors...
Oui, oui. Il n'y a pas forcément une contradiction entre les deux choses, c'est sur les deux phases. Mais historiquement, on a quand même constaté un certain blocage sur la première. On attend toujours la deuxième phase, si tu veux. Même si la pensée mérite effectivement, grande réflexion.
Bon, il y a du bon là-dedans, dans la mesure, j'ajoute cela à l'article de Evelyne Pillet, c'est qu'il y a des gens qui, en quelque sorte, par cette évolution morale, sont susceptibles de rejoindre un combat collectif, etc. Ce n'est pas une mauvaise chose. Elle évoque François Ruffin, député de la France Insoumise.
Et créateur du journal Fakir.
Interroge les enjeux de la crise écologique et entreprend d'ouvrir un autre chemin pour la gauche. La gauche ne peut pas être que économiste, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait un supplément d'âme, on va dire, c'est-à-dire qu'on aille au-delà de certaines revendications, de certaines misères, et qu'il y ait une spiritualité. Il n'est pas le premier à dire ça, hein, parce que moi je me souviens que Peggy, avant la guerre 14, hein, il avait dit « la révolution sera morale ou elle ne sera pas ». Peggy avait quelque part rejoint le mouvement socialiste, le mouvement révolutionnaire, enfin du moins au moins sur ses marges, quoi. Il avait une sympathie pour Jaurès et pour le combat socialiste, Peggy. Je ne sais pas parce qu'il est toujours mobilisé par la droite et qu'il faut le laisser dans le camp de la droite. Il avait dit donc qu'il ne suffisait pas que la révolution soit une révolution économique et sociale, il faut aussi que ça soit une révolution spirituelle.
Et puis pour croire en des utopies, il faut une forme de foi, même une part religieuse, mais dans l'humanisme. Et après tout, on le rappelle, hein, les utopies, enfin, sont des utopies jusqu'à ce qu'elles se réalisent. Mettre les enfants sur les bancs d'une école plutôt que de les envoyer au fond d'une mine pousser des wagonnets, c'est-à-dire payer des gens à ne pas travailler, c'était une utopie. Faire voter les femmes, ça a été une utopie jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Donc il faut une forme de foi, on croit dans des choses, quoi.
La grosse bourgeoisie pourrie qui nous gouverne a tout intérêt, évidemment, à discréditer l'idée d'utopie, c'est-à-dire l'idée d'une autre société. Utopie, ce pays qui n'existe pas, qui n'est pas là, hein, mais qui peut exister. Hein. Le premier, je crois, c'est Thomas More à avoir utilisé le mot traduit du grec pour faire une véritable revendication sociale et politique.
Ceux qui montent en pression, là, il va nous parler des trahisons des socialistes et de la social-démocratie courageuse, politique, du chien crevé au fil de l'eau des socialistes.
Non, ça ne sera pas sur ce ton-là. Ce que vous dites est parfaitement exact, hein, mais je ne vais pas le répéter.
Oui,
excellente citation. Alors, je vais rester sur le plan du spirituel et du revendicatif. Par exemple, Ruffin souligne et dit « Le communisme n'était-il pas avant tout un désir de communion ?» J'étais au Parti communiste assez longtemps pour bien connaître les communistes, les militants qui étaient avec moi. C'était des gens très généreux et c'était des gens qui étaient en fait très proches des militants chrétiens. J'ai milité avec des gens qui étaient des catholiques chrétiens. Et il y avait plus d'un lien entre ces gens-là. La quête d'une autre humanité
d'une autre société, d'autres liens entre les gens qui les faisaient aller au Parti communiste. Et d'ailleurs, on peut noter aujourd'hui la quasi-disparition du christianisme, du catholicisme en France, correspond et parfaitement parallèle à la disparition du communisme. En même temps que les gens n'ont plus d'activité spirituelle catholique, alors c'était pas forcément les mêmes gens, mais c'était, je crois, un cheminement parallèle. Et évidemment, moi je continue de penser que la gauche, qui existe bien, bel et bien, et qui est très concrète, doit en même temps être un humanisme. Ou la gauche sera un humanisme, ou elle n'existe plus.
Évidemment, comme nombre de gens qui se pensent de gauche parce qu'ils ont voté Lionel Jospin ou François Hollande, qui n'ont toujours pas compris que le Parti Socialiste ou la SFIO, son ancêtre, étaient des partis de droite molles, hein, d'ailleurs qui peuvent s'avérer assez durs, hein, comme ont pu par exemple attester les derniers coups de matraque de 2016 pendant la loi Travail et la loi El Khomri. Mais le problème, c'est que la boutique social-démocratie, la boutique PS, s'est cramée. Et le nouveau truc, eh ben, c'est ripolliner tous ces militants ex-socialo, les ripolliner en vert, et les faire voter Yannick Jadot, cette gentille écologie colibriste où on ne fait surtout pas de politique et où on veut bien faire de l'écologie, mais sans surtout jamais prononcer le mot capitalisme. Enfin, ce qu'on appelle la nature, elle se détruit toute seule. C'est absolument pas pour que quelques riches se fassent du profit à court terme en détruisant tout le monde, la nature, les dauphins, le machin. Rendons hommage à la lucidité de nos écolos compatibles avec l'économie de marché.
Eh bien, écoute, ça commence à changer. J'ai de l'espoir. Et j'ai entendu une déclaration d'un dirigeant écologiste, qui n'est pas Jadot, mais qui est un dirigeant important, disant « Il y a urgence à ce que le mouvement écologiste détermine un programme commun, social, économique, tenant compte, des problèmes sociaux aujourd'hui de la France, avec la gauche, de façon à battre la droite, quoi. Et que c'est une urgence et qu'il faut que le mouvement écologiste définissent très clairement quel type de société ils veulent. Ils ont intérêt à assez vite trouver la bonne solution. Hein. S'ils veulent une rupture dans la politique écologique, il faut des ruptures dans la politique sociale. S'il n'y a pas un accompagnement, si l'écologie n'est pas une anthropologie, c'est-à-dire une façon de vivre des hommes, des sociétés dans la nature, ça ne sert à rien. Vous avez vu actuellement comment le capitalisme récupère l'écologie. Il y a une récupération, mais qui est éhontée, de l'écologie. On va ramasser ces petits bouts de plastique, on va pisser dans les tubes, on va bouffer sa merde, etc. Et tout va aller pour le mieux. En fait, ce que je pense, moi, c'est que ce n'est pas seulement une volonté. Alors, ce n'est pas seulement une volonté de ces gens qui nous gouvernent de nous tromper, hein, sur les véritables solutions. Il y a une mauvaise conscience chez les classes moyennes. Ah, la petite bourgeoisie, on dit qu'on voudrait bien que le système se perpétue, mais on sent bien que si on ne change pas ses comportements, le système, il est caduque, il va tomber. Donc, en quelque sorte, on fait de l'écologie parce qu'on essaye de colmater les brèches du système. Parce que non seulement, bon, ce système provoque des inégalités et il y a des pauvres, et ça, c'est pas très gênant. Enfin, il y a beaucoup de petits bourgeois qui s'y font très bien. Mais en plus de ça, nous, nos enfants, nous sommes en danger. Donc, il faut faire de l'écologie. Bon, il faudrait que cette écologie de la crainte puisse s'allier à l'espérance de transformation sociale. Sinon, effectivement, on est foutu, hein.
Et c'est pour ça qu'au-delà des partis écologistes, effectivement, dont on ne peut que se méfier, il y a des associations écologistes et des gens qui se regroupent autour de principes écologiques, mais qui intègrent aussi une dimension sociale à leur réflexion. Et effectivement, les gens d'Extinction Rebellion, par exemple, mènent des actions absolument radicales qui s'inscrivent très clairement dans des formes d'anticapitalisme radical, clairement exprimées. Et là, on a des choses qui sont plus intéressantes et plus nouvelles, qui se rapproche de formes de socialisme du 19e siècle, par exemple des fourriéristes, etc. On a aussi des expériences de vie communautaire qui sont extrêmement intéressantes.
Ami, entends-tu le vol noir de Macron sur la France ? Ami, entends-tu le cri sourd du travail, la souffrance ? Oh, et salariés du public, du privé, faites alliance. Oh, et travailleurs, c'est le moment, soulevez-vous, résistance. Stoppez la routine, ne courbez plus les chines, camarades. Retirez vos chaînes, parlez qu'on vous comprenne, plus de salade. Ohé, cheminots, hospitaliers, enseignants, c'est la lutte. Le gouvernement veut vous cuire à petit feu, il exulte. Le service public, on y tient, on veut pas de la misère. Macron et les siens viennent de déclencher la colère. Il y a des endroits où les riches, les puissants s'imaginent qu'ils peuvent à bon compte souiller, dégrader, détruire, ils jubilent. Mais nous, on sait bien qu'un jour ou l'autre ici, la victoire saura réveiller l'espoir long enterré des âmes noires. On renversera ceux qui sèment l'injustice, la misère. On s'élèvera tous ensemble, tous unis, tous frères. Amis, entends-tu le cri sourd du travail, la souffrance? Amis, entends-tu le vol noir de Macron sur la France? Oh, 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 oh.
Salut Daniel.
Bonjour à tous.
À la une du monde diplomatique, toujours le billet de Serge Halimi, une tuerie.
Oui, une tuerie, et c'est la question de ce jeune étudiant de l'Université de Lyon, Anas K, qui, à l'âge de 22 ans, a tenté de se suicider par le feu. L'immolation, hein, ça a un sens métaphorique très 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 fort et historiquement très puissant. Et la présidente de l'Université Lumière de Lyon 2 a dû rendre compte et reconnaître que M. Anas K voulait protester contre la misère et l'impasse de sa condition sociale. Il devait travailler pour étudier, il avait échoué à ses examens, sa bourse venait d'être supprimée. Il s'est résolu à cet acte terrible à faire tout seul une sorte de révolution. Une révolution tout seul, ça donne pas beaucoup de résultats. Ça donne un témoignage, froid dans l'eau. Il témoigne quelque chose, hein, du fait que les 5 dernières années, le groupe d'âge dont le niveau de vie s'est le plus dégradé, a le plus reculé en France, dans notre belle République, c'est le groupe des 18-24 ans. C'est là où le taux de pauvreté a le plus augmenté. En particulier chez les jeunes ou travailleurs ou étudiants, ils ne peuvent pas, bien sûr, quand ils étudier dans des conditions sereines, efficaces. Une partie croissante de ce groupe d'âge souffre de la faim, se soigne pas ou imparfaitement, et est confronté aux formes élémentaires premières de la misère. Dans un pays qui est par ailleurs un pays développé, qui est une des premières puissances économiques mondiales.
On est passé au niveau 7.
C'est quand même assez hallucinant. Et on voit un jeune, je crois savoir qu'il n'est pas mort, mais il doit être dans un sale état, et bien d'un jeune qui sacrifie sa vie, comme dans les régimes autoritaires, les dictatures du passé ou du présent. Et je vais rappeler 3 actes d'immolation par le feu.
Évidemment, on a tous en mémoire ce bonze qui s'immole pendant la guerre du Vietnam, jusqu'au petit marchand de légumes Mohamed Bouazizi en Tunisie.
En Tchèque aussi. Hein.
C'est des signes très inquiétants pour les régimes en place. Hein. Le bonze au Vietnam, c'est 1963. Les États-Unis ont perdu la guerre. 1968, Jan Palach proteste en s'immolant par le feu contre l'invasion du pacte de Varsovie de la Tchécoslovaquie. Le système soviétique s'est effondré. 2010, le suicide de Mohamed Bouazizi dans une petite ville tunisienne, quelques semaines après le régime autoritaire et corrompu de Ben Ali s'effondrer. Novembre 2019, c'est le suicide de Anas K, où la tentative de suicide témoigne d'un présent difficile et d'un avenir inquiétant.
C'est affreux parce que j'ai l'impression que ces immolations sont, évidemment, c'est terrible, mais qu'il y ait presque une banalisation de la chose. Est-ce que le bon n'a pas eu plus d'impact que notre étudiant de 2019 ?
Plus personne n'y pense. Hein.
En tout cas, ça en dit long sur la misère étudiante. On sait qu'il y a des gamines qui se prostituent pour payer leurs études et ceux qui sont obligés de travailler, qui ratent leurs études parce qu'ils sont en train de livrer des saloperies à bouffer ou qui bossent chez McDo ou je ne sais où et que c'est compliqué, surtout dans certaines filières extrêmement compétitives, et d'avoir un job et d'étudier en même temps. Dans certaines prépas ou trucs comme ça, chapeau aux étudiants qui arrivent à faire les deux.
Non mais là, ils peuvent pas, là. C'est totalement impossible. Mais je pense que ce qui a marqué les générations, c'est d'avoir les images. Surtout dans une société hypermédiatique dans laquelle les images vont très très vite et peuvent se diffuser très rapidement. C'est affreux ce que je dis. Mais il y a une dimension médiatique, c'est-à-dire que si l'info est passée à l'as, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'image de la chose. Sinon, peut-être que ça aurait été encore plus terrible et que son geste aurait plus de portée.
Alors, l'immolation du bonze au Vietnam en 1963 est filmée. Elle est mise en scène. C'est un acte politique, volontaire, révolutionnaire, collectif et mise en scène. C'est quelqu'un qui se sacrifie, qui a autour de lui des collaborateurs, en quelque sorte, et c'est filmé. Alors évidemment, ça prend une proportion considérable.
L'affaire avait médiatiquement rebondi, puisque la femme du dictateur sud-vietnamien avait déclaré que c'était un barbecue.
Jusqu'à ce moment-là, ceux qui gouvernaient au Vietnam, c'était Ngo Dinh Diem et son frère Ngo Dinh Nu. Et la femme, c'était la femme de Ngo Dinh Nu. Peu de temps après, les deux frères ont été opportunément assassinés, sans doute avec la bénédiction donc du service secret américain. Et ça a été le début à la fois d'une instabilité, mais en même temps d'une très rapide montée des États-Unis, parce que jusqu'à présent, ils n'avaient que des conseillers, et ils se sont mis à avoir carrément de la troupe, jusqu'à en avoir 500 000 hommes. Ça marquait le début d'une très grande déstabilisation pour les États-Unis, alors que jusqu'à présent, ils avaient réussi, enfin de leur point de vue, à contenir la révolte des Vietnamiens contre le gouvernement du Sud.
Les gens qui s'immolent, c'est jamais bon pour les tyrans en place.
Papa Macron, arrête de prendre notre pognon pour le filer au grand patron. Je crois bien, tu nous prends pour des cons. Fais gaffe, ça va partir, on va tout te démolir. Quand un jour tu t'en mordras les doigts, quand on va te virer de là. Il me tarde tant que le monde se lève pour voir si tu vas mériter des tas de manifs et des jours de grève. Ça va finir par péter.
Salut Philippe.
Bonjour.
Remarque sur les médias du 4 décembre 2019 et jours précédents. Où, comment, Philippe, les médias dominants et notamment les journaux télévisés de France 2 et compagnie nous présentent grèves et manifestations comme des cataclysmes naturels.
Il n'est bruit dans tous les médias que de la grève nationale motivée par la contre-réforme des retraites. J'ai été frappé par le parallélisme de forme entre la présentation de cette manifestation sociale et un autre événement de l'actualité. Je veux parler des inondations, glissements de terrain, pluies diluviennes et autres catastrophes naturelles. Cette grève est traitée comme s'il s'agissait d'un événement météorologique prévu plusieurs jours à l'avance. Un cyclone tropical, des pluies diluviennes, de gros orages de grêle, des vents violents, un froid intense, une canicule marquée, une sécheresse chronique comme celle de l'été dernier.
Tu as oublié la pluie de sauterelle.
Comme cette grève et les inondations ont lieu en même temps, il est d'autant plus facile d'instiller subrepticement dans l'esprit des auditeurs et téléspectateurs que, deux points, grève égale catastrophe naturelle. L'identification est confortée par l'usage de couleurs code désignant le degré de danger, comme les drapeaux sur les plages, notamment l'alerte ou la vigilance rouge. Rouge comme le feu, rouge comme le sang, rouge comme le signal d'arrêt au carrefour, rouge comme la révolution. En matière de grève, la seule couleur est le noir. Journée noire pour les usagers des transports. Mais noir comme la nuit, noir comme le deuil, noir comme les idées, celle qui déprime et qu'on rumine. Et ce qui est le plus prégnant est que les catastrophes naturelles et la grève, on passe d'un sujet à l'autre dans le journal télévisé et le spectateur est laissé dans la même impression. L'autre identification est le parallélisme entre les voies ou les lignes le long desquelles vont se concentrer les éléments ou la grève. Pour la pluie ou les inondations, les lignes, ce sont les rives des cours d'eau ou les littoraux. Pour la grève, les lignes, ce sont les rues, avenues ou boulevards où vont cheminer les manifestations. J'ajoute que la grève, jadis, c'était l'endroit où les ouvriers parisiens allaient se mettre quand ils débauchaient en place de grève. Et dans les deux cas, les précautions sont les mêmes. On ferme les magasins, on les barricade ici avec des planches, on les protège là avec des sacs de sable. Dans l'un et l'autre cas, on évite de se déplacer, on accumule des provisions, on s'éclaire à la bougie ou on se chauffe au bois. Encore une identification, la grève, tout comme la perturbation des éléments, pluie intense, canicule, sécheresse, sont traités comme des événements sans cause, ou plutôt d'une cause, dans les deux cas, la même, que l'on tait. L'avidité, la rapacité des riches à gagner de l'argent vite, leur frénésie à exploiter les ressources naturelles et les humains. Dans un cas, cela accélère le réchauffement climatique et ses subséquents dérèglements. Dans l'autre, cela accélère l'appauvrissement des classes moyennes et populaires au profit des très riches, des grandes entreprises, des banques, des fonds d'investissement, des spéculateurs en bourse. Mais l'une comme l'autre sont traitées sur le mode du curatif et non du préventif. On ne cherche qu'à parer aux conséquences sans vouloir empêcher les causes à l'avenir. Pour les éléments naturels, on élève des barrières de sacs de sable, on transporte les meubles à l'étage, on les surélève au lieu de cesser d'extraire du pétrole, d'accorder des permis de construire en zone inondable, de bétonner de grandes surfaces, ce qui empêche l'infiltration des eaux et intensifie le ruissellement. Pour parer la grève, on conseille aux gens de prendre leur vélo ou leur planche à roulettes plutôt que de rétablir l'ISF, d'élever le taux marginal de l'impôt sur le revenu des sociétés et de passer les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, au couperet de la guillotine fiscale. Dernier point. Ce jour, au journal télévisé de France 2 de 13h, Nathalie Saint-Cric était invitée.
C'est la chef du service politique de France Télévisions, celle-là même qui vous a enjoint, les amis enseignants, de repérer dans vos classes tous ces élèves qui ne sont pas Charlie.
La honte de ma vie, c'est que c'est une de mes anciennes élèves.
Oh là 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 là, mais... oh, Daniel, ouais, il a bien fait son boulot.
Ponction sur la retraite. Alors, dernier point, donc elle était invitée. Elle comparait notamment la situation de l'automne 1995 et celle d'aujourd'hui. Nathalie Saint-Cric disait qu'il y a aujourd'hui une colère et une exaspération qui n'existaient pas en 1995. En revanche, elle disait qu'une majorité de Français étaient pour la fin des régimes spéciaux de retraite. Et c'est cette phrase que j'ai trouvée particulièrement horripilante. En ce qu'elle cherchait à diviser les Français, et en particulier les Français des classes moyennes et modestes entre eux, pour affaiblir le front de résistance aux contre-réformes gouvernementales. Elle était aussi en ce qu'elle postulait que l'égalisation ne pourrait se faire que vers le bas. Plutôt que de pousser les Français à demander une égalisation au niveau des régimes spéciaux, on les poussait à jalouser ceux-ci, à leur supprimer ce qu'on appelait leur privilège, entre guillemets. Alors qu'en fait, ce que veulent les futurs retraités est d'avoir une bonne retraite pour eux, pas de supprimer les quelques avantages de ceux qu'on désigne à leur vindicte comme des privilégiés. Elle est ensuite particulièrement horripilante en ce que ces fameux régimes spéciaux ne représentent qu'une minorité dans les retraites. Le régime général de la sécurité sociale, l'AGIRC et l'ARCO, plus le régime de fonctionnaires, en représentent plus de 84%. Leur invocation apparaît donc comme un prétexte pour passer tout le monde à la toise du régime de la retraite par points, qui est une arnaque. L'exemple suédois, dont on nous vantait les merveilles, s'est avéré être une escroquerie, et l'AGIRC et l'ARCO, qui fonctionnent par points, ont perdu au fil du temps, beaucoup plus que le régime général qui fonctionne par annuité. Troisièmement, ces régimes spéciaux ont été obtenus pour les classes moyennes et populaires à un moment où les métiers qu'ils concernaient groupaient plus de bénéficiaires, où l'on avait plus besoin d'eux, où leurs syndicats étaient plus puissants, où leur pouvoir de pression était plus grand, où la bourgeoisie, les patrons et les riches étaient obligés de céder. Aujourd'hui, les métiers concernés ne rassemblent plus grand monde. Le syndicalisme s'est effiloché. Les secteurs ont été délocalisés à l'étranger. Les classes dominantes se sentent de nouveau les plus fortes. Elles ne se gênent plus. Elles se déboutonnent complètement. Comme en 1871, après l'écrasement de la Commune, lorsque les bourgeois de Paris, qui avaient eu une trouille mortelle des communards, faisaient la haie de chaque côté du cortège de ceux qu'on emmenait au bagne, pour leur crever les yeux à coups de parapluie. Quatrièmement, elle est enfin horripilante en ce qu'elle n'évoque pas les vrais régimes spéciaux, ceux des riches. La suppression de l'USF qui a offert l'équivalent d'une Maserati aux plus fortunés, ou les dispositions fiscales complaisantes qui ont permis à Bernard Arnault de faire prendre en charge par la collectivité 500 millions d'euros de son musée sur les 800 millions que celui-ci a coûté. Par la collectivité, cela veut dire y compris par les Français les plus modestes et qui ne mettront jamais les pieds dans cet édifice dont, sans vergogne, il s'enorgueillit.
On est dans une période horripilante, quoi, où on entend des choses tout simplement choquantes.
Alors évidemment, il y a toujours les leitmotivs, hein, ces cheminots, ces odieux privilégiés qui ne se battent que pour leur précaré et pas pour toute la société, touchent encore des primes de charbon. La prime de charbon a été abolie en 1972. Où là, une collègue m'a raconté, instite, en grève, un parent d'élève qui vient lui dire « Comment vous faites 3 jours de grève en plus de vos vacances ?» On colporte aussi que la grève pour les cheminots ou pour les profs, c'est gratuit.
Cadeau.
Voilà, toi, je t'ai vu dans la rue en manif le 5 décembre, Cédric.
Je suis payé, hein. Double, oui, mais on paye double. Ouais.
Un sénateur de la République qui avait dit « Bien entendu, les fonctionnaires sont payés quand ils font grève. » Tout le monde avait applaudi.
Il le croit ?
Oui, il le croit. Et c'est une légende tenace. Oui,
mais il faut bien préciser que ce n'est pas vrai. Hein.
Légende d'autant plus tenace qu'elle est effectivement entretenue par les médias. Alors bon, ils essayent d'être un poil plus subtils. Hein. Par exemple, quand il y a grève de cheminots, il y avait jusqu'à présent l'éternel micro-trottoir avec ses clients, parce que ces gens qui prennent le train ne sont plus des usagers d'un service public, mais les clients d'entreprises privatisées qui sont pris en otage. Hein. Alors on vous rappelle, une prise d'otage, c'est un truc violent qui se fait avec des armes, etc. Ou même accessoirement, on tue des gens. Alors Philippe, dans ton billet remarque sur les médias, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà tu décortiques les mensonges et là ça prend du temps parce que dire une connerie, dire une contre-vérité, bah voilà, il suffit d'une phrase et il faut souvent beaucoup plus de phrases pour désamorcer la connerie qui a été dite par le communicant. C'est le mot qu'on utilise pour ne pas dire journaliste, hein, puisqu'on rappelle que les médias privés sont possédés par 9 milliardaires en France et que le reste appartient à l'État, qui est au service des premiers. Moi, ça s'en dit long voilà, sur l'objectivité, hein, soi-disant, de ces journalistes qui, nous traitent comme des gens engagés, hein, parce qu'eux ne sont pas du tout engagés aux côtés des patrons. Ah non, ils sont objectifs, les communicants, les journalistes, pardon. Il y a un truc aussi auquel tu es attentif, Philippe, c'est la hiérarchie de l'information. Le lendemain de la grève et de la manifestation du 5, j'ai allumé France Intox pour avoir un bilan de ce mouvement social. Ils ont ouvert sur Angela Merkel qui faisait acte de repentance à Auschwitz, ce qui est très bien. Hein. Le sujet sur le mouvement social est arrivé en deuxième ou troisième position dans le flash d'information et a occupé à peu près autant de temps que la défaite des handballos qui se sont pris une tôle par je sais pas qui, et puis aussi les amalgames et les juxtapositions d'informations. J'ai entendu sur FIP, le petit piscopi jaune qui tenait le flash d'ailleurs ce jour de grève. Il a ouvert donc le journal en parlant de Balkany qui restait en tôle. Et dans la foulée, Mélenchon. Il s'est planté en plus, il a dit que Mélenchon s'était pris 3 ans avec sursis. Bon, il avait confondu « en » et « moi hein, ». Bon. Vous voyez, Balkany, Mélenchon, tous pourris. Donc c'est bien ce petit travail à la loupe que tu fais, Philippe. Faut quand même être un peu pervers pour faire un truc comme ça. André.
Lorsque les journalistes laissent traîner leur micro sur les trottoirs et interrogent les gens sur l'avenir des retraites, beaucoup de gens, des femmes, des hommes disent « Oui, je m'attends à ce que l'avenir, je n'ai pas de retraite ou ma retraite soit faible. » Comme si les gens considéraient l'évolution des phénomènes sociaux et économiques comme un phénomène naturel. On va vers un réchauffement climatique, une diminution des salaires, une diminution de la protection sociale, comme une grande fatalité en quelque sorte. la façon dont les journalistes, de façon affreusement malhonnête et malfaisante, présentent un parallèle entre grève et catastrophe naturelle, renvoie à une croyance chez beaucoup de gens en le caractère naturel de l'économie. Ça, c'est une grande victoire des libéraux. Le libéralisme, c'est quoi? C'est l'assimilation. Qui est né, le premier libéral digne de ce nom en France, est un type qui a fait un parallèle entre la nature, et il était médecin, hein, et l'économie. Ça fonctionne de la même façon, de façon naturelle. C'est des choses qu'on ne peut pas contester, puisque c'est naturel, qui échappe à la volonté humaine. Et ils ont réussi à mettre ça dans la tête de beaucoup de gens. Ah bah oui, il y a un déficit, ah oui, il faut combler le déficit, ah oui. Et cette résignation est fondée sur des croyances irrationnelles, mais très solides.
C'est aussi ésotérique que la main invisible du marché.
L'Immaculée Conception.
Croyance irrationnelle qui s'appuie sur une méconnaissance totale entretenue par notre système scolaire qui entretient effectivement des programmes à la fois d'histoire, d'économie qui non seulement empêchent les élèves de s'éclairer mais en plus les plongent dans des multitudes de chapitres débiles qui ne mènent à rien et qui n'ont aucun sens.
Il y a tous les ans, ce qui je trouve également horripilant, le fait de parler de la remise du prix Nobel d'économie. Alors qu'il n'y a pas de prix Nobel d'économie, il y a un prix de la Banque de Suède. C'est un coucou qui a fait ses œufs dans le nid des Nobel et qui n'est absolument pas justifié. D'ailleurs, dans le monde diplomatique, un certain nombre de scientifiques avaient dit « Les mathématiciens qui font des maths pour l'économie, on n'en voudrait même pas dans un médiocre laboratoire de recherche. Ils tiennent en économie des propos abscons comme la lune. »
Le problème, c'est que les classes préparatoires, qui ensuite abreuvent les écoles de commerce, notamment les plus prestigieuses, HEC, les DEC, etc., on s'aperçoit que la plupart des classes prépa qui vont fournir ces étudiants, qui vont ensuite occuper tous les postes à responsabilité, sont soit des ECE, soit des ECS. ECE, c'est les gens qui viennent de la filière économique, et ECS, c'est les gens qui viennent de la filière scientifique. Sauf qu'on s'aperçoit que, vu les critères de sélection, notamment le coefficient de mathématiques, les plus belles places sont trustées par les gens qui viennent de filières scientifiques et qui, au lycée, n'ont pas fait d'économie du tout.
Il est illusoire de penser que ces gens des écoles supérieures de commerce, d'économie, etc., puissent un jour découvrir les vraies règles de l'économie et sortir de l'idéologie ultralibérale. Parce que se passe-t-il dans ces écoles? Ces gens se font un réseau de connaissances et une fois ces gens bien payés, bien installé dans le système bourgeois capitaliste, pourquoi voudriez-vous que ces gens-là le mettent en cause? Ils se font un gros trou dans le fromage capitaliste, hein, ils ne vont pas cracher dans la soupe.
Ils alternent entre les entreprises privées et les structures d'État entre lesquelles ils font des allers-retours. Et là, les réseaux s'agrandissent, des mises en jonction entre les gens du privé et les gens de l'État qui finalement peuvent passer d'un truc à l'autre. Etc. Ça s'appelle pantoufler.
Ils joignent, si tu veux, un milieu bourgeois, une classe bourgeoise bénéficiaire du système. À part quelques héros, quelques mystiques, comme, je ne sais pas, Lordon, je sais pas, j'ai connu même au Parti communiste des types comme Herzog, qui étaient des économistes de haut niveau, etc., qui étaient cependant communistes, marxistes, etc. Mais dans l'ensemble aujourd'hui, c'est une espèce extrêmement rare.
Pour les autres, on appelle ça des chiens de garde. Moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est que Nathalie Saint-Cricq a été formée par Daniel, et c'est pour ça que...
Arrête de remuer la boue, enfin, c'est invraisemblable.
J'ai un copain qui est prof de philo aujourd'hui à la retraite, et qui, en correction de copie du bac, est tombé sur une copie tellement affligeante. Quand tu mets un zéro, t'as l'inspection académique qui tombe sur le rab, c'est pas bien.
T'es obligé de justifier.
Mettre une note, je sais plus, il a dû mettre trop. Et c'était tellement affligeant, cette copie, qu'ils l'ont décachetée. C'était la copie d'une certaine... qui est donc devenu un chef du service politique de... À chaque fois que je vois ce prof de philo à la retraite, eh ben on en fait des gorges chaudes. Voilà. Et voilà les amis, c'est ici la fin de cette émission Malpolie que vous pouvez réécouter sur notre site polymix-et-la-voix-off.com avant qu'on ne se retrouve très bientôt sur cette même antenne. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.
Terminé. Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.